L'Aime, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, votre quotidienne sur Radio Évasion. Nous sommes en direct de midi et jusqu'à 13h et bien sûr toujours en rediffusion le soir même à 18h et aussi sur Internet pour l'éternité. Aujourd'hui, notre première partie est exceptionnellement en rediffusion, mais pas le reste. Pourquoi ? Eh bien parce que nos invités ont fort à faire ce samedi 1er juin à la salle Kejaden 2. L'Ogona d'Aoulas, le mois de juin, marque presque toujours le début des hostilités en ce qui concerne les festivals. Et aujourd'hui, je reçois l'association NAMI de l'Ogona d'Aoulas, une association culturelle dont le but est de faire goûter dans tous les sens du terme la culture japonaise. L'association est aujourd'hui représentée par sa présidente, Nanae Geguin. Konnichiwa, Nanae-san.
Konnichiwa.
Et puis l'association, sans bénévole, ça sert à rien. Hein, et surtout, ça sert pas, on fait pas grand chose sans bénévole. Et donc, c'est Marie qui est bénévole et qui nous accompagne. Konnichiwa, Marie.
Konnichiwa.
Bon, alors, comment ça va?
Ça va, très bien.
Très bien.
Bah, je vous remercie d'être nous invités ici.
Ah, mais c'est moi.
Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu.
C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, ça fait depuis à peu près l'année dernière.
Tout à fait.
Puis bah, vous avez eu fort à faire, j'imagine, hein, tout au long de l'année, pour l'association. Bon, en voulant préparer l'émission, Nanae, vous m'avez confessé que même si je vous avais envoyé les questions, vous n'auriez pas eu le temps d'y réfléchir parce que bah, j'imagine que c'est la préparation du festival qui vous occupe parce que samedi, bah, c'est demain.
C'est vrai, là, c'est demain déjà.
Eh oui, c'est demain déjà.
Voilà,
eh ben oui, donc
j'ai pas de temps. Hein.
Et donc vous étiez, bah, j'imagine, fort occupé. Alors ça vous a pris beaucoup de temps pour le faire ce festival.
Ah, oui, énormément de choses à préparer. Depuis quelques semaines, je dors très peu. Je me réveille parfois dans la nuit pour noter. Ce matin, je me suis réveillée à 6h30. Voilà.
Bon, qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire?
Bah, il y a encore plein de choses préparatifs de la cuisine surtout, et aménagement de la salle. Voilà, il y a beaucoup de choses.
Bon, tous les cas. En tout cas, maintenant, vous êtes ici à la radio. Vous allez en profiter pour faire une petite pause. On ne va pas s'endormir pour autant parce qu'on va parler du festival. Avant, on va parler un petit peu de l'association. Alors, NAMI, ça veut dire quoi déjà, NAMI?
NAMI, c'est la bague. La bague
la
à
vague.
La mer, voilà. Et qu'on a nommé cette, on a choisi ce nom parce que notre activité se propage comme des bagues.
Ah, c'est une belle image.
N'est-ce pas?
Oui.
Voilà.
Comment se porte l'association?
Bah, très très bien.
Oui.
Cette année, nous avons environ 60 adhérents. C'est très bien parce que on a commencé il y a 3 ans. Et pour être honnête, la première année, j'ai pensé que ben, on a, au départ, le forum d'association d'il y a 3 ans, on a trouvé que 3-4 adhérents. Donc je m'étais dit que, oh là là, ça peut-être ça va pas marcher. Mais ça commence à être connu maintenant, et grâce à vous, et grâce à beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles aussi. Donc maintenant, ça se porte très très bien.
Alors Marie, elle est déjà passée à la radio, elle est avec vous la dernière fois. Qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole à la radio, Qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole à l'association?
Alors au sein de l'association, on a différentes tâches. Par exemple, dans le cadre du festival, on a chacun des tâches très précises. Moi, je vais plutôt aider pour la cuisine. Après, tout au long de l'année, les bénévoles participent aussi à des ateliers proposés par l'association. Moi aussi, je suis secrétaire de l'association, donc lors des réunions, j'aide Nanae à préparer les comptes rendus. Enfin voilà, il y a différentes tâches. Et c'est vrai qu'en cette veille de festival, il y a fort à penser.
Alors vous avez créé de nouvelles activités, hein, je crois, pour l'association. Je pense notamment à des ateliers avec des enfants à l'école, il me semble. Hein.
Tout à fait. Avant de parler de ça, je préfère dire que l'association se porte bien grâce aux bénévoles.
Ah, évidemment.
Sans bénévoles, je suis pour rien. Vraiment.
C'est gentil, hein.
Et moi, je tiens à dire aussi que sans Nanae, il n'y aurait rien non plus. Et grâce à sa générosité et son dynamisme, on a très envie d'y rester.
C'est que de l'amour, cette association.
Voilà. Donc, à propos de nouveaux activités, voilà, on a, cette année, on a eu beaucoup de propositions de collaborer avec médiathèque et bibliothèque. On a travaillé médiathèque de Plogastel, l'opérette, Plabennec, voilà, pour donner un peu de goût, de plaisir, de culture japonaise aux enfants.
Et alors, comment ça se passe? Ils sont contents de...
Bah, ils étaient très contents. On a fait de calligraphie, on a fait de cuisine japonaise. Parfois, le riz était un peu partout, par terre. Mmh. Mais les enfants étaient ravis. Et puis, voilà, j'espère que l'année prochaine, on va recommencer.
On va parler un petit peu maintenant du festival, parce qu'il y a quand même un très gros programme. Et c'est un programme qui a, me semble-t-il, bien changé par rapport à l'année dernière. Il y a des gens qui sont là encore, mais il me semble qu'il y a des trucs qui n'existaient pas. Vous avez apporté de nouvelles choses. Je n'ai pas le programme exactement sous les yeux, donc j'ai fait une petite liste. Si vous êtes d'accord. Et je voudrais qu'on commence par le découpage japonais. L'Edo Monkiri. Alors, j'ai une question. Edo, il me semble que c'est l'ancien nom de Tokyo. Est-ce que le découpage japonais a un rapport avec Tokyo ?
À Tokyo, non. En fait, à l'époque, il y a très longtemps, on l'appelait encore Edo. C'est pas tout à fait... Edo, Tokyo était Edo, c'est pas ça, parce qu'au Japon, à l'époque, il y a beaucoup de guerres civiles, il y a beaucoup de seigneurs, n'est-ce pas? Et que, voilà, chaque seigneur qui voulait agrandir leur territoire, et que la dernière shogun, il s'appelle Tokugawa Ieyasu, qui a réunifié au Japon, et là, c'est lui qui a nommé. Donc Tokyo, Tokyo c'est Edo, et actuel, une partie de Tokyo. Hein. Mais Edo était beaucoup plus grand.
D'accord.
Voilà.
Alors, le découpage japonais, qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est le nom de Monkiri. Mon, c'est le symbole de chaque famille. Par exemple, le nom de ma famille s'appelle Watanabe. Et Watanabe, moi j'ai un propre symbole. Donc, imaginons que Sato ou Tanaka ou chaque famille qui ont propre symbole. Okay? Et que ce symbole reste toujours attaché parce que, par exemple, la femme, lorsqu'elle se marie, elle amène un kimono pour porter, de par exemple mariage ou l'enterrement. Ils ont toujours un petit symbole derrière. Voilà. Donc, et Akiko propose en fait un découpage de symboles, si vous voulez, d'une certaine manière.
D'accord.
Et que c'est un papier que découpé, on peut utiliser sur éventail, on peut utiliser pour un autre papier, on peut faire beaucoup de choses.
C'est un papier particulier?
Papier en japonais.
D'accord, c'est très très fin, c'est avec ça qu'on fait des origamis, c'est ça?
C'est pas tout à fait ça. Papier japonais, en fait, qui fait souvent à la main. Et que ce sont pas des papiers qu'on achète papeterie.
Pour faire des feuilles ou des choses comme ça, c'est autre chose.
Voilà, d'accord. C'est ça.
Comment ce symbole, ce signe est choisi par les familles?
C'est pas nous qui choisissons. C'est dès le départ. Il existe. Je sais pas à quelle époque que ça existe. Mais chaque famille possède déjà. On ne choisit pas parce que, par exemple, voilà, comme vous choisissez, ce n'est pas le nom de famille.
Oui, c'est vrai.
N'est-ce pas? Moi, je ne choisis pas mon nom de famille.
D'accord.
Voilà, c'est exactement ça.
On a parlé un petit peu des kimonos et vous allez faire revenir Mei Yoshimura, qui était là l'année dernière, pour un essayage de tukata et de hobi.
Yukata, c'est un kimono en coton.
D'accord. Et un kimono, c'est d'habitude,
kimono,
c'est quoi?
Kimono, en général, sont des soies. C'est vrai que c'est un costume très particulier, que c'est très cher. Oui. Mais yukata, c'est, on porte pour l'été parce que c'est... Mais il existe un kimono en soi, un net pour l'été aussi. Mais voilà, yukata, c'est le quotidien, si vous voulez, de kimono en coton.
Ah, le kimono, c'est quelque chose de plus
raffiné aussi.
Oui, tout à fait.
Alors, à quelle occasion on porte le kimono?
En général, à l'époque. À l'époque, ils portaient tous les jours.
Alors, quand vous dites à l'époque, ça veut dire quoi à peu près?
L'ère de Meiji. Ça monte très longtemps.
D'accord.
Voilà. Parce que le Japon est modernisé. À ce moment-là, les costumes occidentaux est importé et que les gens commencent à porter. Donc maintenant, très peu de l'occasion, ça peut être le mariage, lorsqu'il y a des fêtes exceptionnelles ou l'enterrement, les gens ne portent plus. Parce que pour porter kimono, il faut apprendre maintenant. À l'époque, ils n'avaient pas besoin d'apprendre parce que c'était une costume quotidienne, n'est-ce pas? Ils en portaient comme ça. Mais là, maintenant, par exemple, moi, j'ai appris pour porter le kimono.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut apprendre?
Il faut apprendre parce que les kimonos ne sont pas des vêtements qu'on porte comme ça. Pas comme ça, on ne peut pas, la radio. On porte comme de manteau, par exemple, un manteau ou de robe. Les kimonos, en général, c'est plus long. Hein? Et donc, ça, c'est bien aussi, c'est très écologique parce que, c'est vrai que ça dépend des longueurs de manches, mais en général, n'importe quelle taille de personne, petite ou grande personne, peut réguler de longueur.
D'accord.
Hein? Mais pour cela, il faut apprendre quand même à porter le kimono. Déjà, rien que le sous-vêtement qui est compliqué à porter.
C'est un sous-vêtement particulier?
Oui, particulier. Mmh. Et ensuite, kimono. Ensuite, obi, c'est encore très compliqué. Parce que ce n'est qu'un tissu rectangulaire. Mais kimono aussi, ce n'est qu'un assemblage de tissus rectangulaires. Donc, il faut adapter à chaque corps.
Mmh. Donc, d'accord. Alors, les kimonos, ils sont faits pour la personne. On ne va pas acheter un kimono comme on achète un t-shirt, j'imagine. C'est en fonction de la personne, ça appartient à la personne, le kimono.
Ça dépend parce que moi, j'utilise des kimonos de ma mère. Hein, et que un peu standard existe. Mais si vous avez un certain confort financièrement possible, vous pouvez commander sur mesure.
Et ça coûte cher, un kimono? Aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça reste très cher. Ouais. En général, minimum 3 000, 5 000 euros.
Ah ouais?
Ensemble, oui.
Ah purée!
Et donc, c'est quelque chose Maï utilise pour la démonstration, on appelle ça furisode. C'est une longue manche qu'il n'y a que normalement une femme non mariée porte. Ça devient beaucoup plus cher. Donc, les gens n'achètent plus. Ils font de la location, par exemple. Mais bon, c'est... Donc voilà, histoire de kimono. Donc moi-même, j'ai appris, mais il faut compter 1 heure. La dernière fois, j'ai porté, j'ai mis 2 heures pour porter.
Il faut 2 heures?
Ça dépend, parce que à partir du moment où vous habituez, il faut compter un quart d'heure, 30 minutes quand même, 30 minutes. Mmh. Mais d'accord. Sinon, autrement, parfois, on souffre énormément pour porter. Et en plus, il est serré. Ça dépend. Il faut qu'il le porte correctement. Sinon, ça serre tellement qu'on... C'est pas évident.
Il y a encore des gens au Japon qui portent toujours le kimono.
Oui. Les gens, souvent, des Kyoto, par exemple, Nara, ils ont beaucoup de l'occasion. Par exemple, quelqu'un qui apprend cérémonie de thé, c'est important de porter kimono. Mais sinon, les jeunes artistes, ça dépend. Il y a certaines personnes qui essayaient de faire un peu revenir à la mode un kimono, mais c'est pas très adapté. Donc.
D'accord. Ouais. Et le hobby, qu'est-ce que c'est?
Hobby, c'est une ceinture.
C'est la ceinture qui va avec les vêtements. Donc ça, ce sera avec Mei Yoshimura. Et vous parlez de la cérémonie du thé. Qu'est-ce que c'est la voix du thé, le shadow que vous proposez?
Déjà, voix de quelque chose, comme tado, ou on dit sado aussi, ou kendo, judo, tel do, ça veut dire que c'est la voix, n'est-ce pas? La voix, ça veut dire que c'est comme apprentissage jusqu'à la fin de sa vie. C'est vraiment long à apprendre. Il y a tout le temps des choses à apprendre. Donc, pour nous, pour la cérémonie de thé au festival, Miyuki propose de prendre de l'ambiance de cérémonie de thé et de... Ouais, c'est la... Le tiado, c'est en fait quelque chose de très profond. Vous ne pouvez pas apprendre comme ça une seule journée. Il faut des années d'apprentissage. Mais là, elle propose un certain atelier qu'elle prépare de thé et que les invités vont goûter avec un petit gâteau qu'elle prépare.
Essayer de les mettre un petit peu dans cette position-là d'apprentissage.
D'initiation.
Parce que c'est vraiment un tout petit bout.
Hein, ouais. Vraiment une toute petite initiation, voilà.
Et en parlant cuisine, et ben, du coup, là, je vais laisser un petit peu parler Marie. Il y a le cuisinier voyageur, Antoine Floc.
Effectivement, oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que le cuisinier voyageur ?
Il sera présent donc, au festival. Il était déjà présent l'année dernière. Et donc, il voyage beaucoup. Maintenant, il est au Japon pendant 3 mois à peu près dans l'année, en fait. Et il va chercher l'inspiration pour ensuite préparer de nouvelles préparations en France, où il a ses ateliers. Et donc, on pourra retrouver au festival des sirops au yuzu, des choses très raffinées, très spécifiques, qui mélangent des produits du terroir breton avec des produits du terroir japonais, en fait.
On peut rappeler ce que c'est que le yuzu ?
Le yuzu,
c'est un agrume.
Ça ressemble à quoi ?
Bah, c'est comme citron, mais c'est pas tout à fait la même chose.
C'est exactement la même visuel,
non,
c'est jaune aussi.
C'est rond.
Acro comme une orange.
Orange, entre le forme, c'est entre orange et de citron, mais c'est jaune.
Et c'est jaune.
Ouais. C'est très raffiné.
On peut en faire pousser ici du yuzu ?
Je ne sais pas. En France, il y a quelques producteurs que j'aimerais bien procurer, mais c'est un peu difficile.
Ah oui, possible. Ouais.
Et il a créé un livre, Antoine, l'année à Noël. Il est sorti à Noël. Très intéressant. Ouais.
Qu'est-ce qu'il va proposer Antoine sur le festival ?
Ah, il va faire la dégustation et la vente de ses produits fines.
Épicerie fine.
D'accord. Il a un magasin quelque part
Mais il n'y a pas de magasin, il a un atelier chez lui.
C'est un atelier. Mmh.
Ouais.
On va rester encore un petit peu dans la gastronomie. Marie, avec un autre partenaire qui s'appelle Wa Sakura pour de la vente de saké.
Mmh.
Alors, Le saké et l'alcool de riz, c'est la même chose.
C'est ça.
C'est la même chose.
Bah, c'est l'alcool de riz, on appelle ça saké. Mais saké chinois et saké japonais ne sont pas du tout la même chose. Attention, saké chinois, ils sont très forts et que les restaurateurs proposent comme des digestions. Mais tandis que saké japonais... Ce sont à peu près la même degré que du vin français. Donc, on déguste à table.
Donc, c'est aux alentours de 13 degrés. Ah, ça se déguste à table.
Ah oui, avec les plats.
Donc, c'est à consommer, évidemment, avec modération. Donc, il y aura une vente qui sera proposée. Donc, ce saké-là, il vient, du
Japon. Il est vraiment authentique.
Authentique.
Ça vient de Japon. Et qu'elle amène cette fois-ci son fils qui fabrique le couteau japonais.
Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce couteau japonais ?
C'est pas la même chose que le couteau français. C'est-à-dire qu'un couteau japonais, ça coûte très, très... C'est très aiguisé. C'est indispensable pour la cuisine japonaise.
Mmh. Parce que la cuisine japonaise, elle est...
C'est-à-dire que cuisine, chaque fois que je dis aux la participants, la cuisine japonaise... On n'a pas de... C'est une cuisine, il faut couper.
Oui, tout le temps.
Tout le temps couper.
Ouais.
Mais quelle que soit la forme de légumes, la viande, on coupe. Hein,
et c'est normalement très fin aussi, justement. Ouais. C'est jamais des très gros morceaux.
Alors pourquoi est-ce qu'on doit couper très fin ?
Parce que, vous savez, c'est le légume, la viande, ça dépend de manière de couper, le goût change. Par exemple, un concombre, on coupe en fine lamelle, ou bien un gros morceau. En fait, le goût est différent. Hein. J'étais étonnée lorsque je suis venue en France.
Ah oui,
les gens portaient des légumes à main gauche et coupaient avec un couteau. Mmh. Ça, on ne fera jamais au Japon.
Pourquoi ?
Sauf parce qu'on n'arrivera pas à couper.
Oui, puis on pourrait faire super mal si les couteaux coupent très très bien.
Mais par contre, un tofu, par exemple, je coupe sur la main parce que le couteau... Lorsqu'on fait de taper, de quoi
D'écraser.
D'écraser, simplement, ça ne coupe pas.
Mmh.
Tandis qu'il faut tirer, pousser à ce moment-là que le couteau coupe.
Ben, en parlant bien de choses qui piquent ou qui blessent, on va parler un petit peu de broderie, parce que vous faites de l'art de la broderie japonaise aussi un petit peu.
Sasiko, c'est une broderie japonaise qui existe depuis très très longtemps. Et que c'est, cette fois-ci, c'est Fabienne et Daniel qui proposent un atelier de Sasiko, des ateliers de Sasiko. Sasiko, en fait, à l'époque, c'était une méthode qu'ils ont utilisé souvent les vêtements de pompiers.
Ah oui.
Parce que à l'époque de Edo, là, par exemple, pompier était un métier, un phare, si vous voulez, et que le montrer le courage aux gens. Pour cela, beaucoup, des pompiers, hommes pompiers, il est, en fait, il n'y avait pas beaucoup de système de l'eau. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont cassé la maison pour ne pas propager de feu. Mais imaginons que pour casser la maison, il faut rentrer, ne pas avoir de peur de feu. Et là, donc, c'était un de métier vraiment pour les hommes de montrer leur courage. Et à ce moment-là, ils portaient de vêtements avec Sasiko, qui avait en fait épais, très épais comme vêtement. Comment ? Ils ont fait de couture là, plusieurs
couches.
Épaisseurs. Voilà, couches, oui. Épaisseurs, voilà. Et c'est pas le vêtement de pompier qu'elle propose.
Non. Oui, on parle bien de broderie, là. On parle bien de couture, de gestes, gestes techniques qui est propre à l'histoire du Japon.
Voilà, tout à fait.
Donc vous allez un petit peu aussi apporter de végétaux, de biodiversité typiquement japonaise. En plus, l'azalée, il a l'air de bien s'aimer, de bien se porter chez nous. On a le rhodo qui est de la même famille que l'azalée. Il y a d'ailleurs un superbe parc à Trévarez. Je ne sais pas si vous y êtes allé.
Non.
Eh bien, allez-y. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'azalées japonais là-bas.
D'accord.
Ça va vous plaire. Puis, entre parenthèses, je couperai, mais j'en ai acheté pour chez moi il y a quelques jours.
Donc voilà, Stéphanie de Minisatsuki propose de la vente et de une petite exposition de Satsuki. Parce qu'on a, vous savez, là, depuis le début, le Francis de Club de Bonsai Iroise, qui nous a gentiment, à chaque fois, apporté de leur précieux bonsai. Et que bonsai, c'est pas quelque chose qu'on achète aujourd'hui et que ça c'est prêt demain. C'est un travail très minutieux avec le soin particulier. Donc le François qui apporte quelque chose de 10 ans, de bonsai de 10 ans ou 20 ans, quelque chose. Mais ça c'est très bien parce qu'elle peut donner des conseils, précieux conseils. Mais il y a parfois des gens qui souhaitent commencer. N'est-ce pas? À ce moment-là, il faut acheter quelque chose. Donc voilà, c'est Stéphanie qui propose justement de quelques bonsaïs qui est extraordinaire. Voilà.
Et puis des azalées, j'imagine?
Azalées, mais des autres choses, particulièrement azalées Satsuki.
Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cette azalée? L'azalée Satsuki? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas non plus. Ben, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'avais un doute sur le fait que ça soit une pépinière, c'est tout. J'étais vraiment pas sûr de mon coup parce que j'ai du mal de trouver. J'ai trouvé d'autres choses, moi, avec Satsuki. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que c'est? Et j'ai pas
apparemment, plus d'informations. Elle est très connue dans le milieu de bonsaï.
Oui, alors c'est une pépinière qui est vraiment spécialisée dans les végétaux japonais, alors.
Surtout Satsuki.
Surtout les Satsuki.
C'est pourquoi qu'elle s'appelle Mini Satsuki.
Alors, il y a d'autres activités. Il y a le Japon. Alors là, par contre, j'ai peur d'écorcher son nom. C'est un artiste qui fait des livres, je crois, par Payem, c'est ça?
Des illustrations.
C'est un jeune illustrateur.
Oui, effectivement, il est. Donc, il produit des pubs. d'inspiration années 70 en fait, et aussi il s'inspire de l'univers manga pour créer des illustrations, donc il est très populaire parmi les jeunes, notamment qui sont particulièrement fans des mangas, et donc il sera présent
Il était récemment en Corée, hein, il est connu aussi au Japon aussi, je pense que maintenant il est connu en Corée. Il est très connu, il est connu mondialement.
D'accord, et c'est la deuxième fois qu'il vient, parce qu'il était déjà là l'année dernière,
tout
il me semble.
Fait.
D'accord.
Il est quelqu'un d'extrêmement sympathique et très, très gentil et généreuse. Je l'aime beaucoup.
Et donc, vous allez faire venir aussi un autre partenaire qui reste toujours un petit peu pour les jeunes, parce que c'est bien aussi d'avoir des choses pour les jeunes et vraiment les adolescents. Il y a, vous faites participer l'escale à manga aussi de Brest, qui va proposer, j'imagine, un stand de manga pour présenter le manga, et puis aussi du cosplay, c'est ça, avec
Narumizu Craft. C'est cette année pour la première fois que je l'invite, mais elle produit des oreilles de chat pour les cosplayers.
C'est quelque chose qui marche bien, ça, les oreilles de chat?
Apparemment, ça marche très très bien.
Alors, pour expliquer, c'est quoi exactement le cosplay?
Cosplay, en fait, oublier de quotidienne aussi, de être dans le peau de d'autres de personnages, comme Naruto, comme de Dragon Ball à l'époque. Voilà. Je pense que ça commençait au Japon à l'époque, mais je pense que là, c'est éloigné de la vie quotidienne.
C'est une façon, un échappatoire, c'est une façon de décompresser aussi un petit
peu. Voilà, c'est ça.
On reste toujours dans votre thématique. Voilà. Donc, l'idée du cosplay, c'est pas d'acheter des costumes tout faits, c'est aussi de prendre le temps de les construire.
De créer soi-même, en fait. Et souvent, les personnes qui aiment le cosplay sont particulièrement fans des mangas. Et donc, c'est pour eux un peu un rêve qui devient réalité. Ils sont le personnage qu'ils aiment, en fait. Et c'est assez impressionnant de voir ces personnes habillées en personnages déambulés. Les costumes sont souvent magnifiques. Et
puis il y aura aussi d'autres petites activités. Il y aura, je crois, des jeux, il me semble, non?
Le club de Go.
Avec le club de Go.
Club de Go. Et puis chaque année, elle présente une jeune personne de Karuta Bretagne. Karuta, ce sont des jeux traditionnels japonais. Oui, ils proposent Karuta et une autre carte. Ils font l'initiation de jeux. C'est très intéressant.
Alors, on parle de jeux quasiment de société. Le jeu de Go, c'est, je crois, le premier jeu de société, je crois, qui a été inventé. C'est le premier jeu de stratégie, je crois, il me semble. C'est un très, 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 très vieux jeu, le jeu de Go.
Oui. Mais je ne sais pas la détail. Je ne veux pas vous dire.
Vous n'y avez jamais joué?
Mon père a joué.
Oui.
C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était les jeux destinés aux hommes. Et que souvent, mon père avait des très belles... Comment on appelle ça?
Les boîtes, les plateaux?
Oui, plateaux d'épaisseur de comme ça qui a été faite par un artisan et que les pierres étaient le vrai, vraiment.
Ouais. Vous avez des souvenirs comme ça de
votre papa qui jouait souvent. Ouais.
Ouais.
Ouais. Et mon grand-père aussi l'a joué. Ouais.
C'est pareil, c'est des choses qui se retransmettent de génération
en
génération. Il y aura aussi de la pâtisserie artisanale qui sera proposée par Momoko. Et le grand moment, l'une des choses les plus importantes, c'est une nouveauté, je crois, de cette année.
Nous proposons.
La tombola.
Tombola.
Une vraie tombola. Une grosse tombola avec plein de super lots.
Avec des lots merveilleux à gagner. Donc on espère que les gens seront motivés et participeront.
Il faut pas rater cette occasion-là.
Non.
Parce que nous avons 45 lots offerts par exposant. Le montant de 1100 euros. C'est extraordinaire.
Alors, histoire de motiver les gens, on va dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, il y a...
Alors, par exemple, un ensemble de kimonos coton pour enfants, une paire de boucles d'oreilles, nous avons aussi un bon de participation à un atelier de cuisine japonaise. des gâteaux japonais fabriqués par Miyuki, des nerikeri qui sont très très beaux, et également du saké, un tonnelet de saké. Donc voilà. Voilà, différents...
Alors là, c'est un tout petit bout hein, des lots. Je vois la liste, elle est super longue. Là, on a fait juste trois phrases. De ce qu'on écoute, de ce que vous proposez pour le festival, j'ai vraiment l'impression que le message que vous voulez faire passer, c'est prendre le temps de... On parlait du découpage japonais qui prend du temps, on parlait de couper tous les aliments qui... prennent du temps. On parle de la voie du thé qui est un apprentissage qui dure toute une vie. Là, on parle des bonsaïs que l'on taille qui prend 10, 20 ans, voire peut-être plus. C'est votre fer de lance, j'ai envie de dire, de montrer aux gens qu'il faut prendre le temps aujourd'hui.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
C'est important pour vous?
Je pense. Parce que la vie actuelle est très... Voilà, on est tout le temps pressé. Donc voilà, pourquoi pas oublier de la vie quotidienne, de faire une autre chose, de prendre votre temps, voilà.
Et alors, est-ce que vous pouvez rappeler les dates, enfin la date
La date,
ouais, la date du festival.
Le samedi 1er juin 2024.
Et ça commence à quelle heure?
À 10h, jusqu'à 18h.
Ouais, ça va être dur hein, de pouvoir tout faire. Il y a beaucoup, beaucoup de... Et surtout, n'oubliez pas, la tombola, c'est très important.
Très important.
Merci beaucoup, Nanaé. Merci beaucoup, Marie.
Merci.
Merci. Au revoir.